raconte. Christophe Ondelatte.
Nous allons nous intéresser aux ressorts psychologiques et psychiatriques de l'affaire Fabienne Cabot. En novembre 2013, cette jeune mère de famille a abandonné son bébé de 15 mois sur une plage du Pas-de-Calais, à Berck. Et ce faisant, elle l'a tué. Pourquoi ? Pourquoi ce geste fou ? Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Fabienne Cabot.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelatte raconte.
Côte B sur Europe 1.
La côte B du dossier de Fabienne Cabot est épaisse comme un bottin. Tout un tas de psychologues et de psychiatres se sont penchés sur son cas, car cette femme n'a pas le profil de son crime insensé. Fabienne Cabot est une femme intelligente, élevée dans la bonne société sénégalaise. Elle aimait sa fille Adélaïde, et pourtant, elle l'a tuée. Elle a pris un bus depuis Saint-Mandé, à l'est de Paris. Elle est allée à la gare du Nord. Elle a pris un train pour Berck, dans le Pas-de-Calais. Et à aucun moment, elle n'a dit stop à son projet fou. Elle est allée jusqu'au bout, jusqu'à noyer Adélaïde sur une plage de Berck-sur-Mer. Quel est le mécanisme de ce crime a priori incompréhensible ?
C'est donc l'information de la soirée. Une femme interpellée à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, elle a été placée en garde à vue. On la soupçonne, Pierre de Cossette, d'être la mère de cette fillette retrouvée morte sur la plage de Berck-sur-Mer.
Oui, des tests ADN sont en cours pour s'en assurer, mais les enquêteurs ont la solide conviction ce soir que la femme qu'ils ont arrêtée en fin d'après-midi est bien la mère de la petite fille. Il s'agit, selon nos informations, d'une femme de 36 ans, un peu plus que l'âge estimé dans l'appel à témoins, une trentaine d'années. Elle est d'origine sénégalaise et elle a été arrêtée dans un immeuble de 6 étages d'une petite rue de Saint-Mandé à l'est de Paris.
Je ne me prépare pas à cette rencontre avec Fabienne Cabot. Comme nous tous, puisque les appels à témoins avaient été nationalement diffusés.
Maître Fabienne Roy-Nancion, avocate de Fabienne Cabot.
Comme nous tous, j'avais vu au JT les images de la gare du Nord. Je sais que cet enfant a été retrouvé noyé, j'ai les premiers éléments de la presse locale. Mais bien évidemment, je ne m'attends absolument à rien concernant la maman. Par contre, je suis d'emblée fasciné, c'est pas le terme, on peut pas avoir de la fascination pour ça, mais intéressé, parce que je me dis d'emblée qu'une mère donne la vie et que quand elle la prend à son propre enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui a déconné quelque part. Et donc, je n'imagine pas rencontrer un monstre froid qui, de façon consciente, délibérée, calculée, est venu de Paris pour noyer sa gamine sur la plage de Berck. Je me dis que, nécessairement, il y a une mécanique qui est puissante, qui est intéressante aussi, sur le plan psychologique.
En exclusivité sur Europe 1, l'hôtelier de Berck-sur-Mer qui a hébergé cette femme. Il se confie au micro de Lionel Gougelot et vous allez l'entendre. Ce qui a intrigué cet homme, c'est qu'à l'arrivée, il y avait avec elle un enfant et une poussette alors qu'il n'y en avait plus à son départ.
C'est une personne qui passait comme on en voit tellement, vous savez, dans l'hôtellerie, franchement, elle ne sortait pas du lot, elle n'avait rien de très particulier. Et elle avait un calme absolu, elle m'a pas marqué particulièrement. Et le lendemain, quand elle est repartie, elle était extrêmement sereine.
Vraiment rien dans son comportement ne laissait présumer qu'il lui était arrivé un drame ou qu'elle avait...
Non, absolument, c'est justement ça. En partant, elle était très très sereine, très calme, un calme absolu. C'est ça qui est vraiment très très troublant. On ne pouvait absolument pas imaginer ce ça. Absolument pas. Calme absolu. Tant à l'arrivée, tant qu'au départ.
Je pense qu'il est aux environs de 15 ou 16 heures, c'est au mois de novembre. Je passe devant elle, j'ai la robe sous le bras, et immédiatement, je vois quelqu'un qui est là sans l'être. Son enveloppe charnelle est présente, mais on sent qu'elle n'est pas vraiment là. Elle a l'air d'être dans un monde parallèle, c'est-à-dire qu'elle a les yeux dans le vague. Elle n'est ni triste ni gaie, elle est pas accablée, elle a les menottes dans le dos. Je me plante devant elle et je lui dis « Bonjour Madame Cabou ». Elle se lève, parce que je lui parle, elle se lève. Et je lui dis je vais être votre avocat. Et elle me répond « Un avocat ?» Mais pourquoi faire ? Parce que je ne suis pas défendable. Je n'ai pas besoin d'avocat puisque je ne suis pas défendable. Je lui ai souri et lui ai dit « Bien, je ne vous défendrai donc pas, je vous accompagnerai. » Et penchant un peu la tête de côté, elle m'a dit « Comme ça, je veux bien. » Et je lui ai donné mon nom. Évidemment, notre prénom commun a immédiatement fait tilt. Et voilà comment les choses ont commencé entre elle et moi.
Elle dort en prison depuis samedi soir. Fabienne, 36 ans, a reconnu assez rapidement devant les enquêteurs avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant sur une plage de Berck-sur-Mer alors que la marée montait. Fin d'un mystère donc qui aura duré 10 jours. Reste maintenant à comprendre les raisons de ce geste.
Quand j'arrive au parloir de la maison d'arrêt des femmes, il n'y a plus de parloir disponible. Et les surveillantes me mettent dans leur cantine. Et je me retrouve donc dans une petite pièce où il y a un évier, un micro-ondes, une bouilloire, enfin bref, tout ce qu'il faut pour déjeuner ou prendre un café. Et la première chose que je lui demande, c'est de me parler un peu d'elle et de ses études supérieures, enfin ses études de philosophie. Et elle me parle de la théorie de Wittgenstein. Et je pense que ça a dû durer une demi-heure, trois quarts d'heure. J'étais littéralement absorbée par ce qu'elle était en train de m'expliquer. Et au bout de trois quarts d'heure, je me suis pincée intellectuellement en me disant « Eh oh, t'es où là ?» J'étais passionnée par ce qu'elle m'expliquait, j'étais en cours de philo.
Côte D249, première audition de Fabienne Cabou en garde à vue. Question du policier.
Où se trouve votre fille Adélaïde actuellement ?
Réponse de Fabienne Cabou.
Je sais pas. Elle est partout autour de moi. Elle est dans une morgue, je suppose. Je l'ai tuée. Je lui ai planté un couteau dans le ventre. J'ai mis fin à ses jours.
Ce qu'elle avait déclaré en garde à vue était absolument délirant. Totalement délirant, puisque dans un premier temps, elle dit « ma fille chez ma mère, je l'ai amenée à l'aéroport d'Orly, elles sont parties en Afrique, au Sénégal. » Et puis dans un second temps de la garde à vue, elle dit « Je vous ai menti, j'ai tué ma fille avec un couteau et je l'ai jeté d'un pont. » Bon, on sait très bien que l'enfant n'a pas été tué à l'arme blanche et on sait aussi que là où elle a été retrouvée, il n'y a pas de pont. Donc j'envisage immédiatement que ce qu'elle a dit est un délire, parce qu'elle ne peut pas avoir menti. Quand on a le niveau intellectuel de Fabienne Cabou, on ne peut pas envisager un instant de seconde que les premières constatations sur le corps d'Adélaïde vont permettre d'accréditer une thèse de meurtre, d'assassinat à l'arme blanche. C'est tout. L'enfant était bien portante, elle s'est noyée. Voilà, elle a été noyée. Et donc, immédiatement, je me dis, elle est délirante. Elle est délirante.
Côte D249, première audition de Fabienne Cabou en garde à vue.
Au moment où je l'ai déposée, je voyais les vagues et l'écume. J'ai posé Adélaïde juste à côté de l'eau. Et je me disais que si la mer montait, elle n'aurait pas la possibilité de se défendre devant une mer qui monte.
Pendant un temps, elle me tenait des discours logiques, en tout cas elle avait un contact fidèle à la réalité, mais ça finissait toujours par partir en vrille. Et quand je dis partir en vrille, c'est qu'elle se fâchait. Elle me disait « Mais vous n'avez rien compris. Enfin Fabienne, vous ne comprenez pas. » Et elle me disait toujours « Si vous n'essayez pas d'accéder à ce que je suis en train de vous expliquer, alors vous resterez sur la plage avec les autres. Il faut remonter de la plage. » Voilà ce qu'elle me disait. « Remontez de la plage, Fabienne, je vous en prie, remontez de la plage. » Et je lui répondais « Fabienne, je fais ce que je peux, mais c'est compliqué de remonter de la plage. »
Europe 1,
Ondelatte raconte.
Côte B, Christophe Ondelatte.
L'avocate de Fabienne Cabou décrit une femme étonnante, érudite, intéressante. Pas étonnant puisqu'elle est issue de la haute bourgeoisie sénégalaise.
Elle est née à Dakar, elle est née dans une famille d'un certain niveau, hein, au plan social.
Maître Fabienne Roy-Nancion, avocate de Fabienne Cabou.
Son papa était peut-être toujours traducteur pour l'ONU, sa maman était secrétaire de direction dans une maison d'édition. Ses parents n'ont jamais vécu ensemble, mais elle a été choyée, tant par sa mère que par son père. C'est une enfant qui a été élevée dans les meilleures conditions, qui a fait du tennis, qui a fait de la peinture, et d'ailleurs elle excellait en tout. Voilà, Fabienne excellait en tout. Qui a fait des études brillantes jusqu'au bac dans les écoles, collèges et lycées de Dakar, collèges d'ailleurs et lycées catholiques. Elle a une éducation catholique, elle a une éducation bourgeoise, et elle arrive en France à l'âge de 18 ans parce qu'elle veut faire des études supérieures et qu'elle a décidé de partir à Paris. D'ailleurs, elle commence des études d'architecture et très rapidement, elle se rend compte que ce n'est pas son truc, l'architecture, et elle va choisir la philo.
À Paris, Fabienne Cabou rencontre un homme dont elle tombe follement amoureuse, Michel Lafont, un passionné de l'Afrique. Il a travaillé là-bas pendant des dizaines d'années. Maintenant à la retraite, Michel Lafont est artiste sculpteur. Il vit dans un atelier de Saint-Mandé, à l'est de Paris. Mais il n'étale pas sa relation amoureuse avec Fabienne au grand jour.
Sa relation avec Michel, c'est une relation compliquée. Fabienne, c'est la maîtresse cachée de Michel. On rappellera que Fabienne Cabou, à l'époque, est l'âge de la fille de Michel, qu'il n'est pas divorcé, qu'il n'a pas l'intention de divorcer, puisqu'il a des intérêts communs avec son épouse. Michel, il la cache. Il la cache à sa famille, il la cache à ses amis. Il la présente comme une jeune étudiante africaine qui l'héberge. Et donc, quand les copains de Michel viennent à Saint-Mandé, ou quand on fait des sorties, parce qu'on va aussi au théâtre, dans les expos, etc., c'est quand même un monde extrêmement lettré, très ouvert au plan social et au plan de la culture. Quand on promène Fabienne, on la promène comme la jeune étudiante que Michel héberge. Et c'est tout. Et qui fait la cuisine africaine parfaitement bien, et qui leur donne un petit Roland d'Afrique qui est très sympathique. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, lorsque Michel mariera sa fille, le repas de mariage de la fille de Michel Lafont se fera à l'atelier de Saint-Mandé. C'est Fabienne qui prépare le repas. Et elle part avant l'arrivée des invités. Michel lui avait loué une chambre d'hôtel, pas très loin. C'est vous dire que Fabienne, c'est un fantôme pour l'entourage, qu'il soit familial ou amical, de Michel Lafont. Au moment où elle arrive sur la plage de Berck, Fabienne n'a plus d'assurance sociale, elle n'a plus de compte bancaire, elle n'a pas renouvelé ses papiers, elle n'a pas d'inscription à l'université de Paris 8. En réalité, elle a disparu de tous les écrans radar. Elle n'a même plus de contact avec celle qui pourtant est comme une sœur pour elle, sa cousine.
Fabienne Cabou raconte à son avocate qu'elle a tué sa fille Adélaïde, poussée par une force à laquelle elle ne pouvait pas résister.
Et quand elle commence à parler de la contrainte, je me dis, ça y est, j'ai compris, elle est schizophrène. Elle parlait d'un vent dans le dos, d'un pistolet sur la tempe. Elle disait qu'elle avait lutté contre cette force, qu'elle avait pleuré, qu'elle avait crié, qu'elle était dans un combat terrible, mais qu'elle avait perdu ce combat en réalité, au moment où elle dépose Adélaïde sur la plage. Et quand elle parle de ce combat, je me dis, elle est schizo. Ça y est, parce que j'avais bien évidemment déjà assisté des gens qui, par la suite, ont été diagnostiqués schizophrènes. Et puis, au moment où je pense avoir compris qu'elle est schizophrène, parce qu'elle dit, cette contrainte, ben moi je sais ce que c'est, monsieur le juge. C'est le vaudou, c'est le sort vaudou dont je suis victime. Voilà, voilà, je suis pas folle, je suis pas ceci, je suis pas cela. Et la seule façon pour moi d'envisager mon acte, c'est que j'ai été téléguidée, j'ai été contrainte par une force extérieure. Et donc, cette contrainte extérieure, bah, c'est l'envoûtement, c'est le sort vaudou.
Côte B425, expertise du psychologue Jean-Luc Viau. Fabienne Cabou déclare.
Depuis que j'entendais des voix, je disais, vous ne mourrez pas. Je suis solide, hein, mentalement. Résistante. Ils n'ont pas réussi à m'avoir. Alors ils sont passés par ma fille.
Elle va décrire elle-même des phénomènes qui laisse présager, hein, qu'elle plonge sur le plan psychique, sur le plan psychiatrique. Elle va subir, elle va connaître des malaises physiques. Elle va avoir des difficultés à marcher. Elle dira qu'elle a comme les pieds panés. Elle va avoir des difficultés d'insertion sociale. Elle va se renfermer sur elle-même. Elle va entendre déjà des bruits qui n'existent pas. Elle va voir des araignées, des cafards, des scarabées, des scorpions dans l'atelier de Saint-Mandé. Bref, elle a des hallucinations. Et je pense que ça doit être les deux, trois années qui précèdent la naissance d'Adélaïde.
Côte B032, enquête de personnalité. Une cousine de Fabienne Cabou nous déclare.
Quand je passerai à Paris, on allait voir un marabout ensemble. Fabienne voulait savoir pourquoi sa vie était comme ça. Parce qu'elle n'était pas ce qu'elle avait imaginé.
Fabienne Cabot répète au juge d'instruction que si elle a tué sa fille Adélaïde, c'est poussé par un sort vaudou. Le juge dubitatif désigne un collège de 3 experts psychiatres pour se pencher sur son cas. 3 pointures.
Invoquer de façon systématique la sorcellerie sous couvert qu'elle est africaine, ça me paraît un petit peu excessif, hein, par euphémisme. Quand nous nous trouvons en face d'elle, d'abord c'est une très belle femme, très intelligente, avec un vocabulaire extrêmement précis.
Le docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
Avec une tendance à l'intellectualisation, très peu d'expressions émotionnelles et des commentaires du style « Ah ça c'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée », sans jamais se départir d'un sérieux. C'est une femme qui intellectualise beaucoup, qui a effectivement du plaisir à échanger, à donner son avis, et si possible, de montrer que son avis est meilleur que celui de l'autre. Cependant, je dirais ce côté un peu hautain de grande dame a été assez vite contrebalancé par le niveau de souffrance de ce qu'elle va nous rapporter, mais dans son récit, dans son discours, pas dans des émotions, des affects qui accompagneraient ce discours.
Fabienne Cabot répète au psychiatre ce qu'elle a déjà dit au psychologue. J'ai été envoûtée. Aucun des 3 ne la croit. Le docteur Zaguri en tête.
Non, la bonne réponse, c'est d'essayer de comprendre le phénomène dans son ensemble. Et ce qu'elle rapporte, ce sont des choses que nous, psychiatres, nous avons l'habitude d'entendre avec nos patients lorsqu'ils développent un délire de type paranoïaque fondé sur des interprétations, des intuitions, des impressions. Il suffit de se baisser pour ramasser. Je dirais le premier temps de l'examen psychiatrique, c'est la sémiologie, c'est repérer un certain nombre de phénomènes, de mécanismes, de signes qui relèvent d'une affection psychiatrique. Et là, effectivement, ils sont extrêmement nombreux. Fabienne Camus, d'ailleurs, elle-même, fait l'hypothèse de la paranoïa. J'étais en train de devenir paranoïaque. Elle le dit froidement, elle le dit à distance, elle le dit de façon intellectualisée, mais elle le dit tout de même. C'est-à-dire qu'elle va avoir l'impression, par exemple, que des idées qui surgissent spontanément en elle ont été, en quelque sorte, transmises de l'extérieur. Elle a ce qu'on appelle un vécu xénopathique, c'est-à-dire que ce qui lui arrive, ça vient du dehors. On est en face de quelqu'un qui se bat avec des phénomènes extérieurs. Et c'est ça la psychose, c'est ça qui caractérise la psychose. Elle a un vécu persécutif global. Elle va par exemple se demander si elle n'est pas un peu comme dans un film de science-fiction, quand ça grince, quand il y a des bruits bizarres, quand elle va sentir son corps habité. Il y a toute une série comme ça de phénomènes qui l'intriguent et elle va chercher des réponses. Mais essentiellement, elle se sent agie de l'extérieur. Il y a une sorte de destin qui la pousse et c'est très spectaculaire de l'écouter en début d'expertise quand elle raconte comment elle était dans une espèce de déroulement inexorable de quelque chose qu'elle a essayé d'interrompre, mais elle n'y est pas parvenue.
Côte B65, rapport du collège d'experts psychiatres, page 19. Fabienne Camus raconte le jour où elle a tué sa fille Adélaïde. Elle déclare:
il y a un conflit d'intention qui se joue dans moi. Je fais de la résistance. Hein. Je prends un billet aller-retour pour nous deux. Je me fais tout sauf discrète sur le trajet en train. Le vrai moment, c'est quand je sors de l'hôtel et que je vais sur la plage.
Le rôle de l'expert, c'est de répondre aux questions posées par le juge. Et parmi ces questions, il y a effectivement celle du contexte du passage à l'acte. Pourquoi et comment ce passage à l'acte? Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement, elle le raconte. Elle raconte toutes les séquences depuis son départ de Saint-Mandé, le train, l'hôtel, la plage, le fait qu'en arrivant sur la plage, elle avait l'impression surnaturelle qu'il y avait des caméras qui apportaient de la lumière sur son passage. Puis après, elle s'est dit « mais non, c'est juste la pleine lune, s'il vous plaît ». Et là, on a exactement l'illustration de ce qui se passe chez Fabienne Camus, c'est-à-dire une oscillation permanente entre des interrogations délirantes et le retour, si je puis dire, le retour sur Terre et au bon sens et à la rationalité. Elle est sans arrêt là-dedans.
Et puis, elle dit aussi, ben voilà, moi j'attendais un signe.
Maroussia Vilquin, expert psychiatre.
J'attendais un signe qui me dise qu'il fallait pas que je fasse ça. Donc elle attendait que le bébé se mette à pleurer, ou alors elle attendait que la lune se lève, des choses comme ça. Et il y a pas de signe, il se passe rien. Et donc rien ne va faire irruption dans son délire à ce moment-là, qui aurait pu éventuellement la ramener dans une réalité plus concrète. Éventuellement. C'est une hypothèse, on ne peut pas l'affirmer. Toujours est-il qu'il n'y a pas de signe, il ne se passe rien, tout se déroule exactement comme elle l'avait imaginé dans son délire, dans son scénario délirant. La petite ne pleure pas, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui passe, etc. Il n'y a rien, tout se déroule. Et donc, elle continue. Elle va continuer son délire jusqu'au bout.
Côte B65. Rapport du collège d'experts psychiatres. Page 20. Fabienne Camus déclare:
sur la plage, je donne le sein à Adélaïde. Elle se love contre mon épaule. Elle tète tranquillement. Elle commence à s'assoupir. C'est à ce moment-là que je m'accroupis
Je la pose sur le sable. L'eau s'est rapprochée, elle ne réagit pas. Elle dort. Je lui demande pardon. Je reste encore près d'elle. Je me mets à pleurer. Je sens l'eau qui monte. Je m'éloigne. Je reste à 2 mètres, à portée d'un pleur. Je me dis, si je l'entends pleurer, je vais la chercher. Et je n'entends rien. Et l'eau monte suffisamment sur mes bottes jusqu'à ce que je me dise, voilà, c'est fait. Je me dis que soit elle dort, soit elle s'apprête à être noyée. Je suis en larmes. Je sanglote.
Elle le dit, je m'éloigne, je reste à 2 mètres, à portée d'un pleur. Et je me dis, si je l'entends pleurer, je vais la chercher. Et je n'entends rien. Mais je pense que le cours des choses aurait pu être différent.
C'est une force qui agit à sa place.
Le docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
Elle est une espèce de marionnette dont un grand persécuteur tire les ficelles. Elle essaie de résister, mais elle n'y parvient pas.
Code B65. Rapport du collège d'experts psychiatres, page 20. Fabienne Cabou déclare.
Je suis habité. Je suis parasité. J'ai l'impression qu'il y a autre chose en moi. Quand on fait de la sorcellerie, c'est comme ça que le praticien fait. Il entre dans moi et il fait à ma place. C'est ce que j'appelle un tueur à gages. Je suis télécommandé comme un gamin qui appuie sur la petite boîte et qui fait bouger sa voiture.
Les psychiatres comprennent que Fabienne Cabou éprouvait ce sentiment de persécution bien avant l'arrivée d'Adélaïde. Ils pensent que la naissance de l'enfant a intensifié sa psychose délirante.
Probablement que la découverte de cette grossesse a dû activer, réactiver des manifestations délirantes.
Maroussia Vilquin, expert psychiatre.
Qui font que petit à petit, elle se persuade que elle court un danger. Elle se sent persécutée. Elle court un danger. Et comme elle porte un enfant, ben cet enfant court le même danger qu'elle.
Il faut comprendre que sa grossesse n'a pas été déclarée.
Le docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
Donc, elle se retrouve enceinte et elle ne veut pas que l'enfant ait un état civil. Pourquoi ? Parce que lui donner un nom, c'était la mettre en danger par rapport à des visées maléfiques d'un certain nombre de femmes qui s'étaient penchées, si je puis dire, sur le berceau de l'enfant pour la détruire. Hein. Alors ces femmes, c'est l'ex-épouse de Michel, la fille de Michel, sa belle-mère, l'ancienne amoureuse de son père, une tante, enfin c'est des cousines, c'est toute une série de personnages féminins qui, en quelque sorte, ont jeté un sort, ça c'est pas de la sorcellerie, c'est du délire, hein, sur l'enfant, et au fond, il fallait protéger l'enfant contre quelque chose de pire que la mort. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Fabienne Cabou qui le dit. Il y avait quelque chose, même si ça nous paraît totalement, évidemment, absurde, irrationnel, effroyable, mais la rendre aux forces de la nature, c'était la protéger contre quelque chose d'encore pire. Donc, cet enfant n'avait pas d'existence en dehors de la sienne propre, en dehors de cette fusion avec sa mère. Et les motivations profondes de cet acte criminel étaient délirantes, c'est-à-dire de protéger cet enfant innominé de la persécution par des personnages féminins maléfiques.
Europe 1, Ondelat raconte. Côte B. Christophe Ondelat.
La code B du dossier d'instruction de Fabienne Cabou recèle comme toujours une enquête de personnalité. Et tous ceux que l'enquêteur a rencontrés répètent ce que les experts psychiatres ont constaté eux-mêmes. Fabienne Cabou est une femme intelligente. Mais alors pourquoi cette intelligence n'a pas pu stopper son projet criminel ?
Ça, c'est toute la question. Elle va jusqu'au bout parce qu'elle se sent agie par une force.
Le docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
Venu de l'extérieur et qui la pousse à aller jusqu'au bout et parce qu'elle n'est pas parvenue à trouver la solution pour interrompre ce parcours. Alors, en disant ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y avait une force véritablement qui l'a poussée. Je suis en train de vous dire que dans son délire, elle était inexorablement agie par une force extérieure à elle, à laquelle elle n'a pas pu résister.
On a tous fait cette expérience.
Maroussia Vilquin, expert psychiatre.
Que moi je pourrais qualifier d'auto-hypnose, mais où on est perdu dans nos pensées, dans nos rêveries, on se sent déconnecté de l'environnement dans lequel on est, où on n'entend plus vraiment les choses autour de soi, on voit plus vraiment les choses autour de soi, tellement on est concentré sur nos pensées ou nos sensations, et puis d'un seul coup il y a un bruit, effectivement quelque chose qui fait que ah oui, c'est vrai, je reviens parmi vous. Sauf que là, la force, au sens physique du terme, la force qui la tient dans la partie délirante de son psychisme est très très importante, beaucoup plus importante que ce qu'on peut connaître nous dans ces états de rêverie, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant. Donc il faut plus qu'un claquement de doigts, il faut un stimulus vraiment fort pour arriver à rompre cette force.
Elle ne revient à la normale qu'après son incarcération, même pas pendant sa garde à vue. C'est à ce moment-là qu'elle commence à entrevoir la gravité de ce qui s'est passé.
Le 10 février 2015, le collège d'experts psychiatres écarte l'hypothèse de la sorcellerie pour expliquer le crime de Fabienne Cabou. Selon eux, elle était atteinte d'une psychose délirante. Mais malgré ce diagnostic, ils estiment que son discernement était seulement altéré. Et donc, elle peut être jugée. En juin 2016, Fabienne Cabou comparaît devant la cour d'assises de Saint-Omer. À l'audience, son avocate s'appuie énormément sur la démonstration du collège d'experts.
Je ne vois pas comment on peut construire une défense sur le vaudou. J'essaie de comprendre pourquoi elle avance le vaudou comme explication à son acte. Parce que c'est ça la question. C'est pas le vaudou la question, c'est pourquoi Fabienne Cabou avance-t-elle le vaudou comme explication à son propre geste criminel ? Bien, simplement parce que, et d'ailleurs les psychiatres qui vont examiner Fabienne Cabou le disent, elle va chercher dans sa propre culture l'explication à son geste. Je veux dire, le musulman qui délire ne se prend pas pour Jésus-Christ. Et à l'inverse, le catholique, le chrétien qui délire ne se prend pas pour Mahomet. Bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que chacun d'entre nous, sans doute, va piocher dans ses propres bagages ce qu'il peut donner comme explication à une attitude, à un comportement qui serait totalement irrationnel. Et donc, je tente de comprendre à l'époque pourquoi Fabienne me parle du vaudou. Et les experts, M. Zaguri, M. Coutenceau, le docteur Vilquin, etc., vont le dire, tout simplement parce qu'elle ne peut pas se reconnaître comme malade mentale, comme ayant une pathologie, comme étant atteinte d'une pathologie mentale profonde, parce que c'est le cas.
Elle a un fonctionnement psychologique, mais je sais que c'est très difficile à comprendre.
Maroussia Vilquin, expert psychiatre.
Qui est ce qu'on appelle nous clivé, c'est-à-dire coupé en deux parties, quelque chose qui est assez bien ancré dans la réalité et quelque chose qui est complètement délirant. C'est pas 50-50. Ça peut l'être. Puis il y a des moments où c'est 20% de réalité, 80% de délire, et des moments où c'est l'inverse.
L'avocat général, Luc Frémiot, ne retient pas du tout les explications des experts psychiatres. Pour lui, Fabienne Cabou ne délire pas. C'est une menteuse. C'est une manipulatrice. Il pense qu'elle a berné son avocate et même les psychiatres.
Monsieur l'avocat général Frémiot voulait faire de Fabienne Cabou une grande menteuse.
Maître Fabienne Roy-Nancion, avocate de Fabienne Cabou.
Et d'ailleurs, il va jusqu'à dire à Monsieur Zaguri et Labarde, dites donc, docteur, est-ce que vous n'auriez pas été manipulé par elle ?
Bah, les bras m'en tombent un peu.
Le docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
Vous faites une émission code B, parce que vous vous intéressez à la dimension de l'enquête psychique. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, une femme a pu commettre cet acte-là ? Mais il ne faut pas croire que la justice soit avide nécessairement d'éclairage psychologique. Ça, c'est ce qu'on dit, évidemment. Vous ne trouverez pas un seul magistrat, un seul avocat général qui vous dise la psychiatrie ne sert à rien, les expertises ne servent à rien, on s'en fiche et on s'assoit dessus. Vous n'entendrez jamais. Néanmoins, dans un certain nombre de procès, nous sommes les empêcheurs de punir en rond, et il y a quelque chose, une dimension pour laquelle on est des gêneurs. Bon. Et alors, quand on a examiné un cas aussi complexe, quand on a essayé de le restituer, effectivement, s'entendre dire vous avez été manipulé, en gros, vous êtes des nigauds, des benets qui vous êtes fait rouler dans la farine, et de voir ce cas extrêmement intrigant réduit à celui d'une femme qui aurait voulu être peinarde sans sa fille et pour vivre sa vie et qui aurait roulé dans la farine les experts, ça me paraît quand même un peu juste.
Va-t-on comprendre que cette femme délire ? Même là, dans cette salle de la cour d'assises du Pas-de-Calais, elle est dans le délire. Nos experts ont dit altération, pas abolition. Elle est où la limite ? À combien de distance elle était ? Non pas de la cour d'assises, mais de l'hôpital psychiatrique.
Et c'est toute la difficulté de ce procès, tout le paradoxe de Fabienne Cabou. Une femme d'une intelligence supérieure, toujours en quête de raison et pourtant habitée par l'irrationnel. Pour la juger, les jurés devront déterminer jusqu'où va son altération mentale.
Quand on vous dit « cette femme a tué sa fille parce qu'elle est folle », vous vous attendez à voir entrer dans le box quelqu'un qui, d'abord, qui a l'air d'un malade mental, c'est-à-dire les yeux exorbités, un entonnoir sur la tête, enfin, je schématise volontairement.
Maître Fabienne Roy-Nancion, avocate de Fabienne Cabou.
C'est une caricature, mais quelque part, dans notre inconscient, nous nous attendons à trouver ça. Et quand on voit arriver Fabienne Cabou, belle, droite, s'exprimant à la perfection, malheureusement extrêmement froide, alors c'est très compliqué. Et il faut appuyer sur le bouton et la laisser délirer parce que, de toute façon, à un moment, ça peut durer quelques heures, mais à un moment, elle délire. Elle part dans le délire. C'est ça qu'il faut montrer au juré quelque part. Et je pense que c'est ça que je n'ai pas réussi à montrer en première instance.
Maître Roy-Nancion, l'avocate de Fabienne Cabou, n'ose pas la pousser dans ses retranchements. Elle ne parvient pas à montrer l'étendue de son délire. Et elle est piégée par sa proximité avec sa cliente. Et le verdict tombe. Fabienne Cabou est très lourdement condamnée. 20 ans de réclusion criminelle. Elle fait immédiatement appel. Et pour le deuxième procès, son avocate a retenu la leçon. Elle fait venir à ses côtés un confrère, maître Franck Berton, qui lui n'a pas de gêne à bousculer Fabienne.
En fait, je la maternais trop. Et je pense que Franck, lui, qui n'était pas dans cette relation entre elle et moi, alors à nouveau, ce n'est pas une relation d'amitié, mais c'était une relation de proximité qui faisait que je la protégeais et je ne la bousculais pas. Franck Bertrand, lui, l'a bousculé. Et on a bien vu à l'audience de la Cour d'assises du Nord qu'à partir du moment où il l'a bousculé, où il était extrêmement, et même presque violent avec elle, agressif, alors elle s'est fâchée elle-même, et là, elle est partie dans le délire. C'était ça qu'il fallait, en fait. Fabienne, elle a tué sa fille parce que Fabienne était malade au plan psychique. Point. Et il fallait le montrer.
En appel, Fabienne Cabot est moins lourdement condamnée. Elle écope de 15 ans de réclusion criminelle. La justice a retenu sa maladie mentale comme une circonstance atténuante. C'était On de la Traconte, Côte B. Rédaction en chef, Guillaume Maury. Réalisation, Boris Paczynski. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin. À demain à 14h. Bon après-midi.
Retrouvez On de la Traconte, Côte B, tous les vendredis de 14h à 15h sur Europe 1.